Une nuit de janvier 2002, à minuit 21 précise, les pompiers d'Amiens reçoivent un appel sur la ligne de secours.
C'est une opératrice qui répond. Et elle a à l'autre bout du fil une femme totalement affolée qui hurle au secours.
Madame, vous m'entendez ?
C'est des cris terrifiants qui d'un seul coup arrivent dans les oreilles de cette opératrice.
Elle essaie de parler avec cette personne, l'appel dure peu de temps finalement, et le téléphone est raccroché. L'opératrice essaye de rappeler ce numéro, qui ne répondra plus jamais.
Faute de pouvoir localiser ce numéro, les secours ne peuvent rien faire. Et pourtant cet appel sera le point de départ d'une enquête à peine croyable.
Ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un crime presque hors norme.
Plus les heures passent, plus le doute s'installe.
L'hypothèse d'un tueur en série est sur toutes les lèvres.
On se dit, on a l'ADN de l'auteur, donc on va sortir l'affaire, ça va sortir.
C'est des heures, des jours d'enquête.
C'est un travail titanesque.
Je me bats pour faire payer à ceux qui ont fait mal à ma fille. Et je sais que elle a enduré des choses atroces.
Janvier 2002, sur une petite route de la campagne Picarde, un automobiliste fait une étrange découverte.
On remarque une voiture en bordure de route, ouverte, visiblement accidentée.
Avec le pafunier qui est allumé, l'autoradio, la façade bleue qui est allumée aussi, et puis la portière passager est ouverte.
Donc la première image de cette affaire, c'est cette voiture accidentée et abandonnée, semble-t-il, au bord de la départementale 44.
Seulement, le chauffeur de ce véhicule accidenté à 5 km de Péronne, dans la Somme, est introuvable. Le témoin appelle immédiatement les gendarmes.
À l'autre bout du fil, le gendarme se veut rassurant. Il dit à son interlocuteur, écoutez, vous savez, il n'y a pas de blessé, il n'y a personne. Ça arrive de temps en temps, quelqu'un quitte la route, un accident, rentre à pied chez lui.
L'automobiliste décide donc de laisser la voiture là et de reprendre sa route. Et la nuit passe. Vers 8 heures du matin, une patrouille de gendarmes se rend sur place. Le véhicule qui leur a été signalé au cours de la nuit, une Peugeot 106 grise, est toujours là.
Il semble qu'il y ait fait un tonneau, puisque le véhicule est accidenté. Les clés sont sur le contact.
Dans un premier temps, les gendarmes tentent d'établir les circonstances exactes de l'accident.
Pas de bris de glace sur la chaussée, pas de traces de freinage, rien ne laisse penser qu'il y a eu un accident avec une tierce personne.
Le véhicule serait donc sorti de la chaussée tout seul. Or, la route est une ligne droite dégagée qui ne présente aucune dangerosité particulière. Grâce à la plaque d'immatriculation de la voiture, les militaires parviennent à identifier sa propriétaire.
On apprend que ce véhicule appartient à Madame Kulik Elodie.
Elle habite à Péronne, elle est banquière et elle a 24 ans.
Et en examinant sa voiture, les gendarmes font une découverte inquiétante. Ils retrouvent sur la banquette arrière le sac à main de la jeune femme.
On se dit pourquoi une victime qui a un accident seule se retourne avec son véhicule, sort de son véhicule et laisse son sac à main. Il y a quelque chose qui ne semble pas cohérent.
Pourquoi la jeune banquière est-elle partie en laissant ses affaires ? Et surtout, où est-elle ? Les gendarmes vont se lancer à sa recherche. À Péronne, les enquêteurs se rendent d'abord à l'agence bancaire que dirige Elodie Kulik.
Cette dame n'est pas là. Ils ont été employés de la banque. N'ont pas été avisés par elle comme quoi elle sont en retard ou absente ce matin. Donc ils attendent son arrivée.
Les gendarmes vont ensuite à son domicile, rue des Bouchers.
Donc la porte close.
Ensuite, direction les urgences de l'hôpital de Péronne.
Mais là, pareil, au niveau de l'hôpital de Péronne, il n'y a pas d'entrée au nom de Kulik.
Élodie a disparu. Elle s'est volatilisée sur la route départementale 44 au beau milieu de la nuit. Dans la matinée, les gendarmes contactent le père d'Élodie, Jacky Kulik.
On s'imagine immédiatement qu'il est arrivé quelque chose de grave. Hein, et puis, puisqu'on n'a pas de nouvelles de notre fille, qui a l'habitude quand même de nous téléphoner en cas de problème, on se dit, il y a quelque chose. Hein, y a quelque chose.
En fin de journée, aucune nouvelle d'Élodie. L'inquiétude grandit.
Plus les heures passent, plus le doute s'installe.
On n'est plus sur un accident de la circulation, mais là, il y a une disparition d'une personne, donc une suspicion d'enlèvement.
La presse locale est alertée. Un avis de recherche est lancé.
Nous publions une photo de cette jeune femme en disant que ceux ou celles qui auraient vu cette jeune femme peuvent nous appeler un numéro qui est donné, qui est le numéro de la brigade de gendarmerie de Péronne.
Mais le mystère de la disparition d'Élodie Kulik ne va pas tarder à être éclairci. Samedi 12 janvier 2002, un ouvrier agricole se rend à la décharge de la Tombelle, à 12 km de Péronne.
Il découvre ce qu'il croit être dans un premier temps un tronc d'arbre sur cet endroit, et en faisant quelques pas pour s'approcher, il va découvrir assez rapidement qu'il s'agit en fait du corps calciné d'une jeune femme.
Immédiatement, l'homme affolé prévient les gendarmes de Péronne.
Il y a un cadavre dans le champ. Un cadavre.
Et en arrivant sur place, les militaires découvrent une scène d'horreur.
On trouve donc le corps, sexe féminin, sur le dos, dans une position, les jambes recourbées, et en partie calcinée. On a pu tout de suite identifier Élodie Kulik.
Là, ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un crime presque hors norme, c'est-à-dire que la jeune femme, visiblement, a subi les pires sévices.
Comment le corps d'Élodie Kulik s'est-il retrouvé sur ce terrain vague à 6 km du lieu de l'accident ?
Ce n'est pas un lieu de passage, c'est vraiment un lieu isolé, caché, et que personne ne connaît ou ne trouve par inadvertance.
Le lieu de découverte du corps pouvait laisser penser qu'on avait affaire à des gens qui devaient être du coin, ou qui connaissaient, en tout cas, bien la région.
La scène de crime est passée au peigne fin. Et les experts relèvent plusieurs indices intéressants.
On constate la présence d'un préservatif usagé qui était utilisé.
Ils vont découvrir également qu'il y a un mégot de cigarette qui est pas très loin.
Ces indices sont placés sous scellés et envoyés au laboratoire de la gendarmerie. Les enquêteurs cherchent également des traces de pneus qui pourraient les mettre sur la piste d'un véhicule suspect.
Il semble qu'il n'y ait pas de traces de pneus récentes qui laissent supposer qu'un véhicule est venu très récemment au cours de la nuit sur place.
Le corps d'Élodie est ensuite envoyé à l'Institut médico-légal pour autopsie. Dans l'après-midi de ce samedi 12 janvier, les parents d'Élodie Kulik reçoivent un coup de téléphone qui leur annonce la terrible nouvelle.
C'est un monde qui s'écroule, c'est la fin du monde pour moi, c'est la fin du monde.
Jacky Kulik est accablé par la douleur, d'autant que plusieurs années auparavant, il avait perdu ses deux premiers enfants dans un accident de la route.
Et du jour au lendemain, un crime abominable nous prive de notre fille. Je vous dis, tout s'écroule. Tout s'écroule.
Élodie était une jeune femme très appréciée qui faisait l'unanimité dans son entourage.
Elle avait énormément de qualités. Personnellement, Personnellement, je lui connaissais, pour ainsi dire, pas de défaut. Elle était abordable, elle était souriante, elle était intelligente, très très intelligente, elle était spontanée.
Voici les dernières images d'Élodie Kulik tournées chez des amis quelques mois avant sa mort. Après des études de droit brillantes dans le Nord, Élodie était revenue à 23 ans à Péronne, la région de son enfance.
Elle va devenir la plus jeune directrice de Banque de France. Et on lui confie la gestion de la Banque de Picardie à Péronne.
Elle était toute fière de revenir au pays. Pour elle, c'était son pays. C'était un retour au pays et de montrer un peu que ses capacités l'avaient amené à avoir une charge importante.
En plus, elle est très jolie, c'est une grande blonde avec des yeux bleus. Elle passe pas inaperçue, Élodie Kulik.
Élodie aimait les sorties et ne manquait pas de prétendants. Le meurtrier est-il un amoureux éconduit ? Connaissait-elle son ou ses agresseurs ? Ou au contraire, s'agit-il d'une rencontre fortuite ? Pour le savoir, les enquêteurs vont tenter de reconstituer les dernières heures de la jeune femme. Et pour cela, les gendarmes vont d'abord entendre les proches d'Élodie Kulik.
Une collègue de travail nous dit qu'Élodie a quitté la banque vers 17h45-18h et qu'elle se rendait donc sur Saint-Quentin, puisqu'elle devait passer la soirée avec un ancien collègue sur Saint-Quentin.
Cet ami s'appelle Hervé. Il est immédiatement entendu par les enquêteurs.
Confirme qu'effectivement, ils se sont retrouvés vers 18h dans un café sur Saint-Quentin. Après, ils sont allés manger tranquillement au pavillon de Shanghai, qui est en bas de la rue d'Ils, sur Saint-Quentin.
Le pavillon de Shanghai, c'est un restaurant chinois du centre-ville de Saint-Quentin.
Ensuite de ce dîner, ils se sont rendus pour boire un café ou un thé, parce que Élodie ne buvait pas d'alcool et qu'elle repartait chez cet ami.
Hervé nous dit que Élodie était sereine, joyeuse. Ils ont passé une excellente soirée. Ils ont bien discuté. Elle paraissait pas anxieuse ni préoccupée par quoi que ce soit. Donc c'est une soirée tout à fait classique entre copains, et puis très agréable, et puis ils ont passé une excellente soirée. Quoi.
Hervé affirme qu'ensuite Élodie a pris la route vers 23h40 pour rentrer chez elle à Péronne, à une trentaine de kilomètres de là. Mais alors, que s'est-il passé entre le départ d'Élodie de Saint-Quentin et son accident de voiture ?
Il n'y a pas eu de témoin direct de l'accident et d'une éventuelle agression. De cela, dans les premières heures, les gendarmes ne savent rien.
Entre 23h40 et 1h du matin, il s'est passé quelque chose, pour l'instant, qu'on ignore.
Quelques jours après la découverte du corps d'Élodie, les gendarmes reçoivent le rapport d'expertise de la voiture. Première conclusion. Élodie roulait à une vitesse raisonnable, largement en dessous des 90 km à l'heure autorisés sur cette route.
Elle est a priori aux environs de 60 km heure, sur une route nationale parfaitement rectiligne à cet endroit-là. Donc la seule hypothèse crédible, c'est que cet accident ait été provoqué par une cause extérieure.
Pourtant, problème. Aucune trace de collision avec un autre véhicule n'a été relevée sur la voiture d'Élodie.
Il n'y a pas de véhicule qui l'ont poussé. Il n'y a pas de traces extérieures, pas de traces externes qui ont été trouvées sur la carrosserie d'Élodie.
Alors après, forcément, on se dit, mais est-ce que quelqu'un ne l'a pas poussé à la faute ? Est-ce qu'elle n'a pas été poursuivie par un autre véhicule que le sien ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a essayé de la pousser à la faute ?
Pour les enquêteurs, une poursuite en voiture est l'hypothèse la plus crédible. Mais qui aurait pu suivre Élodie et à quel moment ? Ces questions restent sans réponse. Mais l'enquête va connaître un nouveau rebondissement. C'est en épluchant les relevés téléphoniques de la jeune femme que les gendarmes vont faire une incroyable découverte.
Sur son portable, on apprend qu'il y a eu un appel émis, donc c'est Élodie qui a composé le numéro du CODIS d'Amiens.
Le CODIS, c'est le centre opérationnel des pompiers.
Madame, vous m'entendez ?
Élodie les avait appelés à 00h21 précise le soir de sa mort. Et souvenez-vous, les secours n'avaient pas pu intervenir. Les gendarmes se procurent alors l'enregistrement de l'appel téléphonique.
Lorsqu'on écoute la bande la première fois, ça vous prend aux tripes. On a une femme qui crie, qui appelle au secours. On n'est même plus dans la bande, on n'écoute plus le son, on est pris par les cris.
Cet appel de détresse dure 26 secondes. Il est de mauvaise qualité sonore, mais les gendarmes parviennent à entendre des voix d'hommes.
Ils vont entendre des voix, au moins deux voix d'hommes.
Qui sont ces hommes ? Pour les enquêteurs, pas de doute, le meurtrier d'Élodie est l'un d'entre eux. Reste maintenant à localiser d'où a été passé le dernier appel de la jeune fille.
Elle a passé cet appel au secours sur les lieux de l'accident, alors qu'elle était encore dans son véhicule. Ce qui renforce pour moi d'ailleurs l'hypothèse que c'est un accident provoqué.
On sent que Élodie se dit, c'est pas normal, que les gens ne sont pas venus pour lui porter secours. Comme si elle pressentait que quelque chose de dangereux ou que ça allait mal se passer, que ça allait mal se terminer, mais comme si elle était prise d'une peur extrême.
Malgré ce nouvel indice important pour l'enquête, la bande-son du dernier appel d'Élodie recèle encore beaucoup de mystères.
Ça ne permet pas fondamentalement de remonter la piste des agresseurs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de qui il s'agit, il n'y a aucun nom qui est prononcé. Par définition, aucune identification possible à ce moment-là de l'enquête.
La bande-son de l'appel est confiée à des experts qui tenteront de faire parler cet enregistrement et peut-être d'en savoir un peu plus sur les agresseurs d'Élodie. Quelques jours plus tard, les enquêteurs reçoivent le rapport d'autopsie d'Élodie, qui montre à quel point la jeune femme a vécu l'enfer.
Les légistes nous confirment que Élodie a été violée, étranglée et brûlée, mais qu'elle était effectivement décédée avant d'être brûlée.
Du sperme a été retrouvé dans le corps d'Élodie et dans le préservatif usagé prélevé sur la scène de crime. Les experts sont formels. L'ADN extrait de ces deux prélèvements, ainsi que celui retrouvé sur le mégot de cigarette, appartient au même homme.
L'ADN qu'on a trouvé sur la scène de crime est forcément celui de l'homme qui a violé Élodie.
Immédiatement, les enquêteurs vérifient si le porteur de cet ADN est enregistré dans le fichier national des empreintes génétiques.
Le profil ADN ne peut pas être retrouvé dans le fichier, et donc l'auteur ne peut pas être identifié, en tout cas immédiatement.
C'est une déception pour les enquêteurs, qui restent pourtant optimistes, car cet ADN parlera peut-être un jour.
On se dit, on a l'ADN de l'auteur, donc on va sortir l'affaire. Ça va sortir rapidement. On va retrouver l'auteur. On a son ADN, c'est bon, on va y arriver.
Je me dis qu'on a affaire à des amateurs, hein, et que, bon, il y a trop de traces, on va trouver.
Les gendarmes sont donc confiants. Puisqu'ils ont l'ADN du violeur, ils vont employer une méthode radicale pour le trouver. Tous les hommes de l'entourage d'Élodie doivent se soumettre de manière systématique à un prélèvement d'ADN.
À chaque fois, il faut entendre les gens, vérifier leurs alibis, les prélever et comparer l'ADN.
Même et surtout l'ADN d'Hervé, l'ami avec qui Élodie avait passé sa dernière soirée, est prélevé. Seulement, le jeune homme est mis hors de cause, tout comme les hommes de l'entourage de la jeune femme. Cependant, 10 jours après la découverte du corps, les gendarmes sont enfin mis sur la piste d'un suspect potentiel.
Le commissariat de Saint-Colin nous appelle pour dire comme quoi ils ont placé en garde à vue un individu.
Il s'agit d'un certain Cyril, connu de la justice comme délinquant sexuel. Et justement, le soir du meurtre, l'homme rôdait dans les rues de Saint-Quentin, pas très loin du restaurant chinois où Élodie a dîné avec son ami.
Ils vont se rendre compte par la suite qu'en plus, ce garçon a agressé à Saint-Quentin, pour des raisons sexuelles, une adolescente. Une jeune fille qui a été embarquée et qui a eu très peur.
Cette jeune fille a réussi à échapper à son agresseur. L'homme, âgé de 25 ans, est donc entendu par les gendarmes. Est-ce lui qui a croisé la route d'Élodie Kulik ce soir-là ?
Il nous dit effectivement qu'il a passé la soirée avec un copain, ils sont allés boire un peu à droite à gauche. Il se souvient qu'il a agressé quelqu'un.
Cyril reconnaît avoir agressé une jeune fille, mais pas Élodie. Le suspect ment-il ? Car les soupçons des gendarmes sont renforcés par un autre indice.
Lorsqu'ils l'ont arrêté, cet individu est propriétaire d'une voiture rouge. Et ils ont remarqué que sur le côté de cette voiture, il y avait une trace de peinture grise. Or, souvenez-vous, la voiture d'Élodie Kulik était une 106 grise.
La voiture de Cyril est soigneusement inspectée. Mais le résultat est sans appel. La peinture grise ne provient pas de la voiture d'Élodie. Les prélèvements ADN effectués sur le suspect vont le disculper définitivement. Alors, qui a assassiné la banquière et pourquoi ? À Péronne, l'énigme reste entière. 15 avril 2002, trois mois après le drame, les gendarmes reçoivent le rapport des experts en acoustique. Ils ont analysé la bande-son de l'appel au secours d'Élodie Kulik.
Le travail des experts, ça a été de, en quelque sorte, de nettoyer la bande sonore, ces 26 secondes d'appel de détresse d'Élodie Kulik pour essayer de distinguer ce qui se disait au moment de l'agression.
Et les experts sont parvenus à isoler quelques bribes de phrases.
Ça va bien se passer.
Certains évoquent ça va bien se passer, ça va aller. C'est des propos qui ont pu être tenus, évoqués. Mais je veux dire, c'est assez confus. Et c'est vrai que bon, les différentes expertises ne confirment pas, chacun n'entend pas la même chose.
On croit distinguer à un moment l'un des agresseurs qui dit « il faut la finir ». Imagine la violence de ce terme. Bon, qui sera par ailleurs discuté par d'autres experts.
« Il faut couper », disent d'autres. Alors, « il faut couper », ça renvoie à Élodie de téléphone. On va vers elle, on prend son téléphone, on coupe, on jette la batterie.
Seulement, avec ces bribes de conversation, impossible d'établir le scénario exact du crime et rien ne permet d'établir l'identité de ces hommes, si ce n'est un détail très particulier, leur accent.
Ça va être plus être local, Picard, ou Picard, ou proche, voire Nord-Pas-de-Calais, mais je veux dire des gens du cru.
Seule certitude à ce stade de l'enquête pour les gendarmes, les assassins d'Élodie Kulik sont des gars du coin. Ils ont un accent picard extrêmement prononcé. Et puis il y a ce lieu où ils ont abandonné le corps. Ils n'y arrivent pas par hasard, c'est forcément des gars du coin.
Des gars du coin. Alors le père d'Élodie Kulik demande à écouter la bande, espérant reconnaître les voix des agresseurs de sa fille.
Malheureusement, je ne reconnais pas de voix. Ça ne m'apporte rien.
A priori, les voix ne correspondent pas à des membres de l'entourage d'Élodie. Les semaines passent, l'enquête piétine. Et six mois après la mort de la banquière, un nouveau drame plonge le département de la Somme dans la psychose.
Le 8 juillet 2002, sur la commune de Ville-sur-Ancre, un agriculteur découvre derrière une meule de foin le cadavre d'une jeune fille.
le major Martin se rend immédiatement sur la scène de crime. Une scène particulièrement choquante.
Elle était en partie dénudée, le corps, les parties des membres disloquées. Manifestement, cette jeune fille avait victime d'agression sauvage par un ou plusieurs individus.
Elle a été violée. Un véhicule est passé sur elle. Elle a reçu des coups.
Fait troublant, le corps de la jeune fille a été retrouvé à seulement 30 km de là où a été découvert celui d'Élodie Kulik.
Tout de suite, bien entendu, on fait un rapprochement avec Élodie Kulik par rapport au lieu d'agression. On s'est dit, il y a peut-être une équipe là du secteur qui sévit.
C'est vrai qu'on commence à évoquer l'hypothèse d'un tueur de la Somme.
La victime est facilement identifiée. Elle s'appelle Patricia Leclerc, 19 ans. Elle avait disparu deux jours plus tôt.
Patricia Leclerc, c'est une jeune femme qui habitait la région, qui travaillait pour l'été, si mes souvenirs sont bons, dans un restaurant de restauration rapide d'Albert. Et elle faisait la route pour rentrer chez elle à vélo. Et c'est là qu'elle a disparu. C'est le lendemain que son entourage s'est inquiété de sa disparition et son corps sera découvert par la suite.
Fait étrange, le soir du meurtre, des témoins ont croisé Patricia Leclerc sur son vélo. Et ils se souviennent très bien avoir vu une voiture garée le long de la route.
C'est vrai que c'était un véhicule sombre, berline, qui est occupé par une grosse masse blanche à l'avant. Voilà, c'est tout ce qu'on avait comme signalement du véhicule.
Donc on pouvait supposer que l'auteur s'était caché là, avait certainement doublé la victime. Il s'était mis là en attente qu'elle passe pour la faire chuter et puis ensuite l'enlever.
Seulement, les témoins n'ont pas relevé de numéro d'immatriculation. Impossible alors pour les enquêteurs de remonter la piste de la voiture sombre. Alors ils élargissent leurs investigations en s'intéressant une fois de plus aux délinquants sexuels connus dans la région.
Chez moi,
tous les gens qui étaient connus pour des affaires de mœurs dans l'arrondissement de Albert, Péronne, même en proximité de l'Aisne, ont été identifiés et entendus également sur leur emploi du temps. Il y a eu peut-être une centaine de personnes qui ont été entendues dans ce cadre de cette affaire.
Là encore, tous les efforts des gendarmes resteront vains et ils ne sont pas au bout de leur peine. Car 6 semaines plus tard, l'impensable va se produire.
On retrouve un troisième corps, le troisième corps d'une jeune fille, le 21 août 2002. On est sur la commune de Villers-Bretonneux.
Le corps est cette fois coincé sous une camionnette volée et abandonné près d'une voie ferrée.
Il est découvert plusieurs traces d'armes blanches sur le corps, sur le ventre. Elle est décédée d'une hémorragie interne.
Les gendarmes ne connaissent pas l'identité de la victime. Ils décident alors de faire du porte-à-porte dans le village pour se renseigner.
C'est donc vers 17h, un collègue parle avec une personne, et avec un homme, et il dit « ma fille n'est pas rentrée depuis hier ».
Cette fille, c'est Christelle Dubuisson, 18 ans. Elle aussi a été tuée au bord d'une route, aux alentours de minuit.
En moins de 7 mois, les gendarmes sont confrontés à 3 meurtres de jeunes filles sur un périmètre de 40 km. C'est le triangle noir, c'est le triangle de la mort.
3 jeunes femmes, tuées de nuit, en rase campagne, à quelques kilomètres de distance. Tout laisse penser à l'œuvre d'un dangereux tueur en série.
Les gens se disent, les jeunes filles sont agressées par un type qui doit être un serial killer, quoi. C'est trois un serial killer. Donc là, on y est.
En cet été 2002, la terreur gagne les habitants de la Somme.
En l'espace de 7 mois, 3 meurtres à quelques dizaines de kilomètres les uns des autres. Les 2 premiers crimes ne sont toujours pas élucidés. Forcément, le climat se fait lourd dans le nord-est de la Somme. À Villers-Bretonneux, l'hypothèse d'un tueur en série est sur toutes les lèvres.
J'ai une fille de 20 ans, 21 ans, donc elle fait la route aussi, donc on n'est pas rassurés.
Tous les gens sont outrés. Ils ont peur. Alors là, celui qui a des enfants, ils ont dit on ne sort plus.
Quelques jours après le meurtre de Christelle Dubuisson, une marche silencieuse à la mémoire de la jeune fille est organisée.
Je n'oublierai jamais.
Ça aurait pu arriver à n'importe qui, ça aurait pu être ma copine, copine de n'importe qui, la fille de n'importe qui, quoi.
Cette marche blanche, c'est presque une espèce d'appel au secours, finalement, de la population qui dit « faut que ça cesse ». On ne peut pas continuer comme ça. Il y a un tueur ou il y a des tueurs qui rôdent dans un périmètre de 40 km comme ça, ça ne peut plus durer.
On ne pouvait plus avoir une quatrième affaire. Il fallait tout faire pour que ça ne se produise plus.
Face à l'émotion de la population, les gendarmes décident de quadriller la campagne et établissent des barrages. Ainsi, ils recueillent de nouveaux témoignages.
Des témoignages de femmes qui signalent comme quoi elles ont été importunées ou que le conducteur qui les suivait avait un comportement qui n'était pas normal, qui venait les coller ou qui leur faisait des appels de phare ou qui doublait, faisait une queue de poisson pour les obliger à s'arrêter.
Ainsi, les enquêteurs parviennent à identifier plusieurs chauffards. Tous sont interrogés, leur emploi du temps vérifié, mais sans résultat. Nous sommes à la fin du mois de novembre 2002. L'enquête sur le meurtre de Patricia Leclerc, la deuxième victime, fait un bond en avant.
Grâce au laboratoire, les gendarmes vont pouvoir mettre un nom sur un ADN qu'ils avaient prélevé sur un vêtement appartenant à Patricia Leclerc le jour de sa découverte. Il y a un nom qui va enfin apparaître, celui de Jean-Paul Lecomte.
Jean-Paul Lecomte, les gendarmes le connaissent bien. Cet homme vient de purger une peine de 17 ans de prison pour une série de viols. Il l'avait entendu et prélevé son ADN comme d'autres délinquants sexuels dans le cadre de l'enquête sur Patricia Leclerc.
C'est quelqu'un qu'on avait rencontré, qui était très serein, qui semblait pas, je veux dire, pas surpris de nous voir, tout à fait le citoyen calme, posé, qui laissait paraître rien, quoi.
Lecomte habite dans cette maison de Méholt, un village situé justement dans le triangle de la mort. Les gendarmes vont l'interpeller au petit matin du 25 novembre 2002.
À partir de cet instant, je m'y trouvais, croyez-moi, j'étais soulagé lorsque je l'ai vu menotté et puis hors d'état de nuire.
Reste à savoir maintenant si Jean-Paul Lecomte est bien le meurtrier des 3 jeunes femmes. La justice va trancher. L'homme est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres de Patricia Leclerc et de Christelle Dubuisson. Seulement, concernant Élodie Kulik, le tueur de la Somme n'a jamais été inquiété, car il avait un alibi incontestable.
On découvre qu'au moment des faits d'Élodie Kulik, il était détenu et qu'il n'a bénéficié d'aucune sortie.
Donc, il ne pouvait pas avoir participé au meurtre d'Élodie.
Pour le père de la victime, la déception est immense.
Pour moi, ça s'effondre. Hein. Je m'étais dit, on le tient et puis non, il faut revenir à la réalité, à la dure réalité. Lecomte ne peut pas être impliqué dans le meurtre d'Élodie.
À la section de recherche d'Amiens, les gendarmes chargés d'élucider le meurtre d'Élodie Kulik poursuivent donc sans relâche leur enquête.
Les gendarmes vont devoir tout reprendre à travers la fameuse cellule d'enquête qui a été spécialement montée pour tenter de résoudre cette énigme judiciaire.
Les enquêteurs se lancent dans une tâche longue et difficile. identifier toutes les personnes qui ont déclenché une borne téléphonique dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002, sur la zone de l'accident d'Élodie, ainsi que sur la scène de crime.
C'est plus de 14 000 appels recensés, donc il faut identifier et voir un peu, notamment sur si parmi ces appels, il y a des gens qui sont connus, pas connus. Mais...
C'est un travail colossal qui, malheureusement, ne donne rien.
La mort d'Élodie Kulik va également réveiller tous les corbeaux de la Somme. Les gendarmes reçoivent des centaines de lettres d'anonymes qui leur indiquent une piste éventuelle.
Ils écrivaient une petite lettre en disant « vous devriez vous intéresser à Pierre, à Paul, à Jacques ».
Toutes ces lettres ont été prises en considération. Il faut savoir que derrière chaque lettre, c'est des heures, des jours d'enquête.
Au total, ce sont plus de 600 pistes qui seront exploitées. 5500 tests ADN et 10 000 auditions. Mais tout cela ne donne rien.
J'y crois, moi. Je me dis, on a quelque chose. Parler, ça risque de parler un jour. Mais ça va être très très long.
Alors Jacky Kulik prend une initiative étonnante. Il va offrir une récompense de 60 000 euros à toute personne qui permettrait d'arrêter les assassins de sa fille.
Je sais bien que ce n'est pas les assassins qui viendront spontanément se désigner eux-mêmes, hein, mais que des gens qui ont des doutes aux alentours peuvent être attirés par l'argent.
Des gens qui vont dire « Ah, moi je sais !» et qui sont rien, qui ne savent rien en vérité. Mais Jacky va s'accrocher à ça, et ça ne marche pas là non plus.
J'ai promis qu'on les aurait. J'ai promis et... Je vous l'ai dit, hein, je remuerai ciel et terre, mais on les aura. On les aura.
Les années passent, mais aucune piste sérieuse n'apparaît. En 2011, 9 ans après le meurtre d'Élodie, un nouveau gendarme intègre la cellule d'enquête de l'affaire. Cette nouvelle recrue est un scientifique à la pointe de la recherche en matière criminelle.
Lui, jeune, avec un œil neuf, avec ses compétences, peut-être pourrait-il nous aider sur quelque chose.
Et ce capitaine propose d'expérimenter une méthode inédite pour exploiter l'ADN masculin retrouvé sur la scène de crime. La recherche de l'ADN apparenté.
L'idée, c'est de rechercher non pas l'ADN de l'auteur direct de l'agression, mais de quelqu'un de sa famille, de quelqu'un apparenté.
Et cette méthode utilisée pour la première fois en France va être payante. Car en novembre 2011, le fichier des empreintes génétiques révèle un ADN apparenté, c'est-à-dire appartenant à un membre de la famille du violeur.
On va trouver qu'un certain monsieur Viard a un ADN qui est très proche de celui qui a été trouvé sur la scène du crime. C'est pas le même, mais c'est très proche.
Donc le violeur d'Élodie Kulik ne peut être qu'un membre de la famille de ce monsieur Viard.
Ça ne peut être qu'un enfant de monsieur et madame Viard.
La famille Viard vit près de Saint-Quentin dans l'Aisne. Et ils n'ont qu'un seul fils en âge d'être impliqué dans le meurtre de la banquière.
Cette personne dont l'ADN est sur la scène de crime, c'est un jeune homme qui s'appelle Grégory Viard.
Grégory Viard avait 23 ans au moment des faits. C'est un véritable coup de théâtre dans l'enquête. Pour la première fois depuis 10 ans, les gendarmes tiennent enfin une piste sérieuse.
Une grande joie intérieure. Les gens de la cellule sont... c'est bon, on tient bon bout, on a la bonne ficelle.
Seulement, pour les besoins de l'enquête, les gendarmes garderont l'identité du violeur secrète pendant plusieurs semaines. Le 8 janvier 2012, Jacky Kulik, qui n'est pas encore au courant de ce rebondissement, organise une marche de commémoration pour les 10 ans de la mort d'Élodie.
Ce qui me fait tenir, c'est le fait de les avoir un jour, de savoir qui ils étaient, pourquoi ils ont fait. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Rien n'est pire que de ne pas savoir.
Ce n'est donc que 8 jours plus tard que Jacques Ekulik apprendra que le violeur de sa fille aurait été identifié.
C'est un soulagement. C'est un grand soulagement. Je me dis, on va enfin voir le bout du tunnel. On va enfin arriver à... Je vais enfin arriver à tenir ma promesse.
Mais l'espoir de voir le violeur d'Élodie arrêté s'effondre immédiatement. Car Grégory Viard est mort peu de temps après le meurtre d'Élodie Kulik. C'était en novembre 2003. Un accident de la route inexpliqué.
Il était au volant de sa voiture, il roulait à vive allure et à un moment donné, il s'est déporté sur la gauche et il est allé s'encastrer sous un poids lourd.
Des gens diront que c'est un suicide, des gens diront que c'est un accident de la circulation. En l'état, je veux dire, bon, nous, c'est un accident mortel de la circulation. On peut, les deux hypothèses sont plausibles.
Grégory Viard est mort. Il ne sera donc jamais jugé. Et l'action de la justice à son encontre est définitivement éteinte. Cependant, l'enquête continue. Car grâce à la bande-son, les gendarmes savent que ce jeune homme n'était pas seul le soir du meurtre.
On se dit que s'il a été impliqué dans le drame d'Élodie Kulik, peut-être qu'il avait des complices et que forcément, les gens qui ont participé à l'agression d'Élodie faisaient partie de son entourage proche.
Comment il vivait, avec qui il vivait, avec qui il faisait la fête, avec qui sortait, quelles étaient ses habitudes, est-ce que c'était un solitaire, est-ce qu'il était plus avec Pierre, avec Jacques.
Alors, pour tenter de démasquer le ou les complices de Grégory Viard, les gendarmes se plongent dans la vie privée du jeune homme.
C'était pas un criminel. Il était connu, je crois, pour l'histoire d'escroquerie. Il avait peut-être fait quelques petits larcins, mais c'était pas un criminel. Rien ne pouvait laisser supposer qu'il ait commis ce genre de meurtre.
Pourtant, au fil de l'enquête, la personnalité de Grégory Viard apparaît de plus en plus contrastée.
Le jeune gars passionné de sport mécanique, de voiture, parfois un peu violent quand il a bu un coup de trop les soirs de fête ou le samedi soir.
Un peu turbulent, il sortait pas mal, il picolait beaucoup.
Quelqu'un de discret, très violent. J'avais coutume de dire que c'était un bourrin.
Un portrait confirmé par la compagne de Grégory Viard au moment des faits. Pour la première fois, elle accepte de se confier face à une caméra.
Tout au début, ça allait très bien entre nous deux. Après, il y a eu son père qui a été incarcéré. Là, il a commencé à être violent, à me taper, à m'enfermer. Il allait voir ailleurs. Et plus en plus agressif, il buvait beaucoup.
En décembre 2012, cette ex-compagne de Grégory Viard est placée en garde à vue. Les enquêteurs s'interrogent sur son rôle le soir du drame. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, l'ADN de cette femme a été retrouvé sur la scène de crime.
On a en fait, dans le préservatif, la trace de l'ADN de Grégory Viard et la trace de l'ADN de sa compagne de l'époque.
Alors, les gendarmes demandent à la jeune femme de s'expliquer.
On vivait chez mes parents, ils venaient à la maison. Donc, moi, j'ai expliqué en disant que, on se voyait encore. De toute façon, c'est comme ça que l'ADN est arrivé sur les lieux du crime.
C'est un ADN transporté, elle vivait avec lui. À partir du moment où vous viviez avec quelqu'un, forcément, vous avez des contacts. Et il est bien évident que c'est dans ces conditions que son ADN a pu être transporté par Grégory Viard sur la scène de crime. Voilà, ça s'arrête là.
L'ex-compagne de Viard est donc mise hors de cause. Mais son témoignage et une enquête approfondie dans l'entourage de Grégory Viard vont permettre aux gendarmes de lancer un coup de filet. Le 16 janvier 2013, les gendarmes lancent une série d'interpellations dans l'Aisne. Ce jour-là, 7 personnes sont arrêtées dans le cadre de l'affaire Élodie Kulik.
Sept hommes qui ont tous pour point commun des amis de Viard, qui l'ont fréquenté avant sa mort.
Ces hommes partageaient avec Grégory Viard la même passion pour les sports mécaniques. Ils sont tous placés en garde à vue.
Et au cours de cette série d'auditions en garde à vue, les enquêteurs vont ressortir le fameux appel téléphonique, l'appel à l'aide d'Élodie Kulik le soir de son agression.
Sur cette bande, les acousticiens avaient identifié avec certitude la présence d'au moins deux hommes, certainement les assassins d'Élodie. Et c'est en écoutant cette bande-son que certains des suspects placés en garde à vue vont faire des révélations capitales.
Sur les sept gardés à vue, cinq, c'est pas rien, cinq vont reconnaître formellement la voix d'un des gardés à vue qui s'appelle Willy Bardon.
Willy Bardon, 39 ans, est un ami proche de Grégory Viard. Les gendarmes lui font aussitôt écouter la bande-son de l'appel d'Élodie. Et l'homme va fournir plusieurs versions.
Au tout début, il reconnaît sa voix. Quoi. Il dit « Ah oui, c'est ma voix ». Puis après, non, c'est pas ma... Non, de toute façon, j'y étais pas, donc c'est pas ma voix.
Il a été surpris de voir qu'il y avait une voix qui avait éventuellement des intonations qui pouvaient ressembler à la sienne. Mais à aucun moment donné, il dit « C'est ma voix, ça y est, c'est moi ». Non. C'est une voix qui ressemble à la mienne, mais je ne dis pas que c'est ma voix et en tout état de cause, je n'y étais pas.
Willy Bardon et les hommes qui ont reconnu sa voix sont ensuite confrontés.
Et chacun va dire, en écoutant la bande, face à Willy Bardon, « Si, c'est ta voix, c'est toi ». C'est toi qui es sur cet enregistrement, tu étais donc là au moment des faits.
Donc c'est quelqu'un qui vit extrêmement mal la chose, qui se tourne vers les gens en disant « Mais tu me connais, je ne suis pas capable de ça, tu vois bien que ça ne me correspond pas. Tu te trompes, c'est pas possible. »
À l'issue de sa garde à vue, Willy Bardon est mis en examen pour séquestration, viol et meurtre. Il est aussitôt placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Amiens.
Première mise en examen dans ce dossier, Willy Bardon, un suspect sérieux qui, malgré tout, continue de clamer son innocence, en tout cas au moment où on se parle.
Alors, coupable ou innocent ? Toujours est-il que jusqu'à son interpellation, Willy Bardon était inconnu de la justice. Il vivait depuis plusieurs années, ici, dans le village de Fiolaine, à quelques kilomètres de Saint-Quentin.
Il est décrit comme un type un peu violent quand il avait bu. Lui aussi, il fait partie du club de 4x4 du coin. Il est copain avec Grégory Viard et toute une bande de loustiques là, qui traînent, qui écument les bars du secteur. Il a le coup de poing facile.
Il a tenu un bistrot dans un petit village du département de l'Aisne. Ça a périclité au bout de quelques mois et finalement, l'affaire a lamentablement sombré.
Au cours de l'enquête de personnalité sur Willy Bardon, les gendarmes découvrent aussi que l'homme a parfois un comportement déplacé avec les femmes.
Certains disent et témoignent qu'il a déjà poursuivi des jeunes femmes en voiture, qu'il a fait des propositions à des mineurs. Enfin, il est présenté, et en particulier sur le plan sexuel, comme un individu pour le moins peu recommandable.
C'est quelqu'un qui n'a jamais été condamné. C'est quelqu'un qui arrive aujourd'hui à 40 ans avec un casier judiciaire vierge. Vous n'avez aucune affaire sérieuse qui tienne la route, qui vienne dire « Monsieur X est venu embêter X, telle ou telle personne, a suivi telle ou telle personne. »
Alors, Willy Bardon est-il le complice de Grégory Viard ? Pour l'instant, aucune preuve matérielle ne permet de l'affirmer.
Dans l'ensemble des prélèvements ADN qui ont été effectués à ce jour, aucun, je dis bien aucun, ne concerne mon client.
La seule charge sérieuse qui pèse sur Willy Bardon, c'est donc cet enregistrement de l'appel d'Élodie. Alors, de nouvelles expertises sont demandées par la juge d'instruction.
On a pris la voix de Willy Bardon, on a enregistré Willy Bardon, et on essaye, par la technique, de croiser avec la bande-son pour voir s'il s'agit des mêmes voix.
Fin mars 2013, l'ex-compagne de Viard est à nouveau entendue par les gendarmes. Pour la première fois, la jeune femme est confrontée à l'appel au secours d'Élodie Kulik. Et elle est formelle, elle reconnaît les voix de Viard et Bardon.
J'ai reconnu tout de suite. Mon ex, c'est son copain. Son meilleur copain. J'ai écouté la bande, je l'ai pas écouté qu'une fois, je l'ai écouté plusieurs fois. Et je sais très bien que c'est eux. Pourtant, j'avais peur de plus me rappeler, hein, leur voix, tout ça, mais je suis sûr que c'est eux.
Aujourd'hui, 11 ans après les faits, l'instruction se poursuit car aucune preuve formelle n'a permis de mettre en cause Willy Bardon. L'homme crie toujours son innocence et il subsiste de nombreuses zones d'ombre dans cette affaire.
Est-ce que c'est un crime fortuit ? Pourquoi est-ce qu'ils s'en sont pris à Élodie ? Est-ce que c'était un guet-apens ? Est-ce que c'était parce que c'était une jeune femme qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment ?
Mais surtout, principal inconnu dans cette affaire, qui a tué Élodie Kulik ? Grégory Viard ? Willy Bardon ? Ou un troisième homme que personne n'a jamais réussi à identifier ? Cette affaire aboutira-t-elle à un procès ? C'est en tout cas ce que le père de la jeune femme espère depuis plus de 11 ans.
Je me suis préparé, vous savez, je suis prêt à un procès. Hein. Pour moi, ce que ça représentera, j'aurai tenu parole. J'ai donné ma parole que j'aurai les assassins, qu'on les traduira en justice. Et pour moi, ça sera l'aboutissement.
Cela fait 4 mois que Willy Bardon est incarcéré. Dans l'attente d'un éventuel procès, il reste présumé innocent.